Le mois Market
avec Candy Crush.
C'est pas évident de choisir un champagne. Vous avez pas une pièce que je fasse pile ou face?
Oh, mais c'est pas la peine, Michel. Le choix est tout trouvé. Pendant le mois Market, il y a 70% d'économie sur le champagne Vranken, par exemple, avec la carte de fidélité. Et c'est aussi sur des produits de marque jusqu'au 8 novembre chez Market.
Alors, pile, c'est celui-là. Et face, c'est celui-là aussi.
Bien joué, le mois Market.
Avec Candy Crush.
Premier cru, 75 centilitres. Modalité produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le magazine Elle fête ses 70 ans et c'est Franck Ferrand qui l'aide cet après-midi à souffler ses bougies. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous sommes en compagnie d'Olivia de Lamberterie, que connaissent bien nos auditeurs et qui a occupé tous les postes chez Elle, y compris celui de rédactrice en chef. Et puis, et c'est, on peut dire une fois n'est pas coutume, je suis ravi de saluer bien bien plus tôt dans l'émission ma petite camarade Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck.
On peut dire que vous êtes chez vous à Elle en fait, au journal comme vous dites, autant qu'à Europe 1.
J'ai la chance d'avoir la double nationalité, oui, c'est-à-dire de travailler à Elle avec ma camarade Olivia de Lamberterie que je suis très heureuse de voir aujourd'hui, un peu émue même.
C'est quoi l'esprit Elle si on devait le définir?
C'est ça, c'est-à-dire que les gens qui nous parlent de Elle nous demandent toujours si c'est une espèce de panier de crabe avec que des filles hystériques.
On imagine ça, ça doit être extraordinaire.
Alors, pour ce qui est des filles hystériques, un petit peu.
Oui.
Et pour ce qui est du panier de crabe, non. C'est-à-dire qu'on se connaît toutes depuis très très longtemps. On a d'ailleurs démarré sur cette antenne une émission qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Il n'y en a pas deux comme elle, où nous formions une bande, et c'était une vraie bande de copines, de camarades du journal Elle.
Un petit panier d'écrevisses.
Avec quelques garçons.
Ah ben bien sûr, mais on va revenir sur tout ça, sur ces 70 années d'une aventure à peu près unique dans la presse française, il faut le dire. Donc il y a beaucoup à dire. Je vais commencer moi par vous raconter le droit de vote des femmes, puisqu'on est en 1945, au moment de la naissance de Elle, et puis ensuite on reviendra sur les unes, et puis sur un certain nombre de femmes extraordinaires, de femmes célèbres qui ont marqué ce magazine. Et puis tout à l'heure, n'est-ce pas?
À la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Juliette sur les origines de l'expression dernier cara.
Oui, on a décortiqué pas mal d'expressions cette semaine. Alors j'en profite pour signaler la parution d'un ouvrage de Stéphane de Grotte qui s'appelle Le livre de la jongle. Ça s'écrit, il a carrément écrit jongle comme on jonglerait avec les mots, bien entendu. Ça paraît là, chez Plon, ces jours-ci. Il est également membre de toute une petite équipe qui s'est réunie autour d'Alain Rey pour un ouvrage qui est paru aux éditions du Robert qui s'appelle 200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître. Alors à présent, comme un préambule à la naissance du magazine Elle, et en attendant de retrouver Marion Ruggieri dans une petite heure, nous allons revivre ensemble ce jour mémorable où pour la première fois en France, les femmes ont voté.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Enfin, en ce 29 avril 1945, pour les premières élections municipales de la France libérée, les femmes prennent leur place dans les files d'attente des bureaux de vote. Inutile de vous dire que ça passionne les journalistes et ça passionne notamment les photographes qui vont chercher le cliché le plus marquant. Notamment, on essaie d'aller trouver des religieuses, vous savez, qui font la queue devant l'isoloir, vêtues de leurs plus beaux habits noirs et blancs. On cherche les femmes célèbres de l'époque. Irène Joliot-Curie entrant au bureau de vote. Yvonne de Gaulle sortant de son isoloir. Et bien sûr, les appareils photo crépitent. L'événement inspire aussi les caricaturistes, il faut le dire, avec plus ou moins de bonheur. L'un d'eux griffonne par exemple des femmes confondant une urne et un bénitier. Quant à certains journaux, ils publient des modes d'emploi du vote. C'est un petit peu condescendant quand même, mais enfin, il faut bien leur apprendre à voter à ces femmes qui n'ont jamais voté. Le changement n'en est pas moins acquis. Désormais, les Françaises votent et ce qui n'est pas la moindre des conséquences de ce droit de vote, elles sont éligibles, bien entendu. Notre pays, disons-le, est loin d'être à la pointe des grandes démocraties du monde dans ce domaine. Ce droit de vote accordé aux femmes est le fruit d'une longue, très longue lutte qui s'est étirée, si je puis dire, à travers les siècles. Alors si on remonte dans l'ancienne France, au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque moderne, évidemment, on ne peut pas dire que les femmes aient été négligées dans la vie politique. Elles y ont eu leur place, incontestablement. D'abord, au plus haut rang, imaginez les souveraines, très importantes, je pense à Aliénor d'Aquitaine, Anne de Beaujeu, etc. Si les femmes n'avaient pas joué un rôle politique essentiel dans l'histoire de France, j'ai presque envie de dire que cette émission au cœur de l'histoire n'existerait pas, puisque nous passons nos semaines à vous raconter l'histoire de ces femmes extraordinaires. Ça, c'est tout en haut de la société. Mais il faut dire aussi que un certain nombre de communautés sont dirigées par des femmes dans l'ancienne France. Je pense à ces abbesses, bien entendu, qui dirigent de grandes communautés. Dans certaines provinces, les femmes ont le droit de prendre part aux conseils locaux. Bref, elles ne sont pas toujours exclues des délibérations. La vérité, c'est que pour l'essentiel, néanmoins, elles sont cantonnées, non plus aux gynécées comme dans l'Antiquité, mais en tout cas aux cuisines, aux offices, aux chambres, bref, à la maison d'une certaine manière. Voilà ce que Jean Bodin, vous savez, on cite toujours le légiste Jean Bodin comme un modèle d'ouverture politique, comme une sorte d'humaniste extraordinaire. C'est lui qui disait qu'il n'est de richesse que d'hommes, mais je dis bien, il disait que d'hommes, il ne précisait pas, et de femmes. Voilà ce qu'il écrivait. « Je pense que les femmes doivent être tenues à l'écart de toute magistrature, de tout poste de commandement, tribunal, assemblée publique et conseil, de sorte qu'elles puissent accorder toute leur attention aux tâches féminines et domestiques. » Voilà la bonne morale de Monsieur Bodin. Il va falloir, disons-le, attendre globalement, et même si, encore une fois, pendant tout le XVIIIe siècle, par exemple, il y a toutes ces femmes qui tiennent des salons, vous imaginez l'influence énorme que ça leur donne, mais nous parlons bien d'influence, pas de pouvoir direct. Il faut attendre la Révolution française pour que la question fasse véritablement débat en France. Et l'on sait que des figures comme celle de Condorcet, par exemple, parlent déjà de la nécessité pour les femmes d'acquérir des droits politiques. Soyons honnêtes, on parle de ça pendant la Révolution, mais ce n'est pas du tout une priorité. Voilà ce que nous disent Nicole et Albert Duroy. Les femmes attendent beaucoup du grand bouleversement. Leurs réclamations, qui s'expriment grâce aux pétitions, adresses et cahiers de doléances, portent sur les problèmes connus et parfois tragiques auxquels elles sont quotidiennement confrontées. Le manque d'instruction, la mortalité en couche ou la mortalité infantile, le droit d'exercer un métier. Les revendications touchant aux droits politiques sont rares, car peu de femmes ont pris conscience de leur importance. Alors rare, ça ne veut pas dire inexistante. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots. Bien sûr que je vais vous parler de la plus emblématique de ces femmes qui, avec Thérouanne de Méricourt, avec Madame Roland, auquel nous avons ici consacré bien sûr des émissions, la plus emblématique reste Olympe de Gouges. Ce personnage assez étonnant, avec des idées très en avance sur son temps. Elle était originaire, Olympe de Montauban. Elle a été très jeune veuve, elle est devenue auteure dramatique. Vous voyez qu'elle était quand même très lancée, bien sûr, dans le mouvement des idées, et elle s'enthousiasme pour le mouvement révolutionnaire. Elle va promouvoir avec énergie une respectabilité pour les femmes engagées en politique, et elle se bat pour se faire entendre au milieu de ces voix graves qui seules semblent vraiment s'imposer dans la cohue révolutionnaire. Olympe de Gouges est un auteur politique foisonnant. Elle fait partie de celles qui s'insurgent contre l'esclavage, contre les inégalités sociales, contre le mariage religieux. Elle est pour la promotion d'un mariage civil en France. Et même si on ne peut pas la réduire à cela, son combat féministe, je ne sais pas si je dois employer le terme, c'est un anachronisme, mais enfin il y a un peu de féminisme quand même là-dedans. Son combat comprend bien la quête de l'égalité politique entre hommes et femmes. Voilà ce que nous dit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791. Qui est un peu le pendant, évidemment, à la Déclaration des droits de l'homme. « La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. » Et c'est moi qui ajoute « pour toutes ».
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, c'est une émission où les femmes sont à l'honneur puisque nous fêtons les 70 ans du magazine Elle. Franck Ferrand, vous avez décidé de revenir sur ce jour de 1945 où les femmes ont eu le droit de vote. Mais d'autres choses se sont passées bien avant 1945.
Un petit saut d'un siècle en arrière. En 1848, avec l'avènement de la Deuxième République, vous savez, au moment du départ de Louis-Philippe, on lance avec cette Deuxième République, on est à l'époque du printemps des peuples, tout un vent de liberté assez extraordinaire. Et il y a à ce moment-là un véritable élargissement. Voilà ce que notent Nicole et Albert Duroy, je les cite. Le gouvernement provisoire décrète le 5 mars 1848 que tout citoyen âgé de 21 ans a le droit de vote sans restriction ni de capacité, ni de sens. Sens, c'est-à-dire ni de fortune. Les pauvres comme les domestiques, les vagabonds comme les travailleurs itinérants, il suffit de résider au même endroit depuis 6 mois. Seuls sont exclus ceux qui ont été privés de leurs droits par la justice, les faillis, les démons internés et les femmes. Vous avouerez que ça
c'est une belle catégorie, hein, franchement.
Ça, c'est un peu la tâche sur le tableau, il faut bien le reconnaître. Il semble que la société ne soit pas mûre à l'époque pour un suffrage réellement universel. Les femmes activement engagées pour leurs droits politiques sont très minoritaires à l'époque. Elles sont décrites, vous savez, un peu comme des harpies. Leur combat n'est pas du tout considéré comme une priorité. Dans une société qui est moins fondée sur l'individualisme et qui repose sur des structures anciennes, il paraît normal que ce soit un homme qui représente par son vote son foyer et sa communauté. Mais les combattantes de l'égalité ne vont pas désarmer pour autant. Elles s'organisent, leurs rangs s'épaississent, ce qui semble particulièrement visible au début de la Troisième République. Après la parenthèse du Second Empire, où, un peu comme sous l'Ancien Régime, les femmes sont importantes, influentes, mais n'ont aucun droit officiel. Parmi celles qui vont faire parler d'elles sous la Troisième République, il y a évidemment Hubertine Auclair. On devrait lui ériger des statues à cette Hubertine. Pour elle, le droit de vote est nécessaire à la quête générale de liberté et d'égalité des femmes. Il s'agit à ses yeux d'une urgence et elle va avoir un geste marquant. En 1880, elle écrit au préfet de la Seine « Ayant voulu exercer mon droit de citoyenneté française, ayant demandé mon inscription sur les listes électorales, on m'a répondu que la loi conférait des droits seulement aux hommes. En conséquence, je laisse aux hommes le privilège de payer les impôts qu'ils votent et répartissent à leur gré. Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charge. Je ne vote pas, je ne paie pas. Elle est formidable, cette Hubertine Auclair. Alors bien sûr, quand les huissiers finissent par la menacer, elle doit bien se résoudre à faire machine arrière. Mais son initiative fait date et elle va en annoncer d'autres. Parce que plusieurs femmes vont se présenter à des élections sous la Troisième République, elles font leur petit effet. C'est illégal, mais elles n'en reçoivent pas moins un certain nombre de voix. Et voilà ce que souligne une historienne du phénomène. Grâce aux campagnes médiatiques menées notamment par Hubertine Auclair, nous dit-elle, le débat sort peu à peu de l'ombre et des sphères réservées dans lesquelles il était jusqu'alors confiné, alors que les initiatives électorales se multipliant posent enfin le problème du vote des femmes de manière concrète dans le paysage politique. Oh, c'est loin d'être encore tout à fait clair, mais le débat sur le droit de suffrage va gagner des soutiens de plus en plus éloignés des cercles, disons, féministes. Des hommes politiques de différents partis peu à peu s'y associent et l'on va voir cette lutte relayée par la presse, relayée par les milieux d'influence. Un grand quotidien qui s'appelle Le Journal décide par exemple au printemps 1914, au moment des élections législatives de 14, qui sont d'autant plus importantes que tout le monde sent bien venir le conflit qui est près d'éclore, eh bien, ce journal, ce grand quotidien, Le Journal, organise un vote parallèle pour les femmes. Alors, c'est pas un vote qui a valeur légale, mais enfin quand même, vous voyez bien. L'idée est de proposer aux femmes de déposer dans une urne installée pour l'occasion le jour du scrutin, un bulletin avec inscrit « Je désire voter ». Eh bien, vous savez combien de femmes vont faire le voyage, si je puis dire, jusqu'au bureau et déposer ce vote ? 500 000, c'est quand même pas mal. On peut dire que la cause avance et qu'elle avance bien. Reste à franchir un gros obstacle, celui du système politique et des partis. Ça n'est pas gagné parce que les partis politiques, à l'époque, ils sont constitués à 100% d'hommes.
Et cet après-midi, les femmes sont à l'honneur sur Europe 1. On parle du droit de vote des femmes et on parle de façon plus générale des 70 ans du magazine Elle. Vous pouvez bien sûr réagir sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Cet après-midi sur Europe 1, à l'occasion des 70 ans du magazine Elle, Franck Ferrand, vous avez décidé de revenir sur ce jour où les femmes ont eu le droit de vote en France. Un droit qui a été semé de pas mal d'embûches quand même.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Union soviétique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, tous ces pays, peu à peu, accordent le droit de vote aux femmes et toujours pas la France. Entre 1901 et 1937, écrivent Nicole et Albert Duroy, les assemblées ont été saisies à 60 reprises de projets, propositions, rapports, résolutions sur le sujet. Jamais, dans l'histoire parlementaire, si l'on excepte la question scolaire, jamais le même thème ne revint aussi souvent en discussion que celui-là. Et pourtant, ça progresse pas vraiment. C'est vrai que les partis de gauche sont de plus en plus favorables au vote des femmes. Quoique, il y a, notamment chez les radicaux qui dominent cette Troisième République, il y a une voix qui se fait beaucoup entendre et qui craint que les femmes ne votent n'est un vote clérical. Vous savez qu'elles ne soient sous l'influence des prêtres. C'est ça la crainte, évidemment, des hommes politiques de l'époque. Et donc ça, pour les gens de gauche, c'est pas formidable. Quant aux gens de droite, quant aux élus conservateurs, ils ne veulent même pas en entendre parler. L'ouverture du droit de vote est votée à plusieurs reprises par la Chambre des députés. Ben oui, mais on est dans un système bicaméral comme le nôtre sous la Troisième République. Et le Sénat, lui, fait barrage. Il bloque même à l'issue de la Première Guerre mondiale quand même. Vous savez que pendant la Grande Guerre, les femmes ont fait la preuve de leur extrême importance civique, politique. Elles sont là, elles ont tenu quasiment le pays à l'arrière pendant que les hommes se battaient au front. Et bien malgré ça, on n'accorde pas dans l'entre-deux-guerres le droit de vote aux femmes, même si là les conflits deviennent beaucoup plus importants, bien entendu. On craint que les femmes ne soient le jouet de leurs émotions. Il faut lire les discours de l'époque. Ah ben oui, elles sont trop fragiles, les femmes, pour voter, vous comprenez bien. Il faut avoir la tête froide pour voter. Pas mal de préjugés. D'ailleurs, on pourrait faire une liste de tous ces préjugés, c'est assez étonnant. Beaucoup de craintes politiques quant à l'inconnu que représente surtout ce vote féminin. Et la Troisième République, qui a compté quand même sous le Front Populaire un certain nombre de femmes membres du gouvernement. Ça, c'est une ouverture, mais elle n'était pas élue. Eh bien, cette Troisième République va mourir, ou plus exactement se suicider, en 1940, sans avoir réglé la question. Et finalement, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la question rebondit. Nous sommes à Alger en 1943 quand une assemblée consultative provisoire a été mise en place pour préparer la reconstruction de la France après la guerre. Vous savez, c'est ce gouvernement provisoire et cette assemblée en l'occurrence. Alors, là encore, il faudrait pas croire que ça se fasse d'un seul coup, mais fin mars 1944, coup de théâtre, alors que des discussions nouvelles ont lieu sur le sujet, l'Assemblée procède à un vote et cette fois, ça y est, à 51 voix contre 16, le droit de vote est adopté pour les femmes. On peut dire que ça y est, cette inertie, ces craintes, ces préjugés ont été dépassés et peut-être qu'ils l'ont été surtout avec l'arrière-pensée de rompre avec la Troisième République. Il y avait une telle haine de tout ce qu'avait pu faire et être la Troisième République que rien que pour rompre avec cette Troisième République, on donne le droit de vote aux femmes. Un mois plus tard, le 21 avril, le général de Gaulle, donc président de ce gouvernement provisoire, le général de Gaulle, qui d'ailleurs était personnellement en faveur de la mesure, va signer l'ordonnance qui valide la décision. Et ainsi, commentent les époux du roi, ce droit pour lequel tant de femmes se sont battues parfois jusqu'à la mort, qu'elles ont rêvé d'arracher bannière au vent, ce droit leur est accordé à la va-vite, à la sauvette, presque par inadvertance, par un général rebelle et une assemblée de circonstances, simple anecdote au cœur du drame. Une note au bas d'une page dans un grand livre tragique. C'est peut-être un peu sévère comme jugement, mais il faut bien reconnaître que sans les circonstances tellement particulières de ce gouvernement et de cette assemblée exilée qui prépare la reconstruction d'après-guerre depuis Alger, eh bien sans la volonté peut-être de rompre et d'inventer quelque chose de neuf, le droit de vote n'aurait même pas été accordé aux femmes. Vous imaginez, ce sera donc au début de l'année 45 que les femmes vont enfin pouvoir voter. Faut-il regarder regarder comme une coïncidence que la même année, cette année 1945, ait vu les femmes voter pour la première fois en France et le magazine Elle faire son apparition, personnellement, je ne le crois pas du tout. Bonjour Olivia de Lamberterie.
Bonjour Franck.
J'ai dit tout à l'heure très impoliment bonjour à Marion Ruggieri et je ne vous ai même pas salué. Alors avec vous, nous allons revivre non seulement cette année 1945 et l'arrivée de cet ovni dans la presse française, mais les 70 années d'une aventure formidable.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et c'est un anniversaire que nous fêtons cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h. Le magazine Elle fête ses 70 ans. Franck Ferrand, vous recevez Olivia de Lamberterie, chef du service des livres, éditorialiste et grand reporter au magazine Elle. Elle qui a vu le jour en 1945.
Et oui, justement, la même année que ce droit de vote accordé aux femmes. Alors, il y a eu beaucoup d'événements en 1945, évidemment, à commencer tout de même, ne l'oublions pas, par la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 7 mai 1945, en tout cas pour le front de l'Ouest. En ce qui concerne le magazine Elle, il les fait partie de cette espèce de révolution, parce que la presse est en ébullition. Il faut reconstituer complètement la presse qui s'est beaucoup compromise avec l'occupant et avec le régime de Vichy. Et donc, on va créer de nouveaux magazines. Et on peut dire que l'événement pour vous, Olivia de Lamberterie, c'est l'arrivée de New York de Pierre et Hélène Lazareff.
Exactement. Ils ont passé la guerre là-bas comme beaucoup d'intellectuels de cette époque. Et la légende veut que l'idée de elle soit née à Broadway. Hélène Lazareff, elle est en train de faire les magasins à Broadway.
Pendant la guerre,
la société de consommation est déjà née aux États-Unis, alors que la France est encore un pays à la peine. Et là, elle a l'idée...
Je ne sais pas, mais en tout cas, pas du tout consumériste.
Exactement. Et là, elle a l'idée d'un journal féminin. Donc, elle regarde beaucoup les magasins, et puis elle regarde aussi beaucoup les magazines américains, notamment un magazine féminin qui s'appelle le Harper's. Et quand elle rentre avec son mari, le patron de François, elle a une idée, une obsession, c'est créer un magazine féminin français.
Il faut expliquer peut-être d'abord ce qu'est ce modèle Harper's Bazaar, c'est quoi en fait?
C'est un grand journal américain dans lequel Hélène va puiser énormément d'idées.
C'est le glamour, hein, si je puis dire.
Le glamour, et c'est aussi une certaine idée de la femme qui est très importante pour le magazine Elle. Alors, elle revient à Paris, elle s'installe dans l'immeuble de son mari, de François, rue Réaumur.
Va être le grand titre de ces
années-là. Exactement. À ce moment-là, d'ailleurs, Marie-Claire, qui existait déjà avant la guerre, a fermé. Elle se fait un bureau d'enfer. Vous savez, Hélène, elle est russe. Elle se fait une sorte de cocon russe. Elle apporte sa machine à écrire, une Remington. Mais il y a aussi des œufs de Fabergé. Je crois que le bureau était absolument magnifique. Elle fait une équipe. Dans l'équipe, il y a une femme qui va être très importante à elle, qui est Marcel Segal, qui a tenu le Courrier du cœur pendant de très nombreuses années.
Vous l'avez rencontré, vous, Marcel Segal?
Que j'ai rencontré, je l'ai interviewée, elle avait 103 ans. Elle était géniale pour entretenir sa mémoire. Tous les matins, elle apprenait une fable de La Fontaine. Dans l'équipe, il y a aussi...
Je trouve que ça, c'est une très bonne hygiène. Moi,
très bonne
très
hygiène
bonne idée.
De vie. Hein. Oui. Et je peux vous dire qu'elle elle pensait à toute allure, toujours à 103 ans. Dans l'équipe, il y a un homme, directeur artistique, et c'est rigolo parce que c'est une tradition qui va toujours perdurer. Aujourd'hui encore, le directeur artistique est un homme.
Alors qui est l'homme à l'époque? On fait entrer, vous ne rappelez plus. Enfin, bon.
Monsieur Isabelle Jean Lacroix, je crois, qui a pas laissé son nom dans l'histoire. Donc tout le monde travaille au contenu et il y a une anecdote qui est très rigolote, c'est que au dernier moment se pose la question de la couverture. Impossible à ce moment-là de trouver de la pellicule couleur en France. Que fait Hélène? Elle se dit, on ne peut pas sortir un magazine féminin moderne avec une couverture en noir et blanc. Elle prend l'avion, elle va à New York et en 3 semaines, elle shoote 6 mois de couverture pour les 6 mois à venir. Alors ce qui est rigolo, ce qu'on ne sait pas, c'est que les mannequins du coup des premiers 6 mois du Elle sont toutes des Américaines.
C'est extraordinaire,
mais
ça.
Habillées avec une mode évidemment parisienne, puisqu'elle est partie avec des malles, avec tous les vêtements qu'il fallait porter à l'époque.
Ah, c'est extraordinaire. C'était vraiment, comme on dit, avec les moyens du bord. Hein,
avec les moyens du bord.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce Elle? Quelle est la philosophie en quelque sorte? On trouve un peu tout quand même, il faut bien le dire. Il y a le côté bazar de Harper's aussi.
Il y a le côté bazar. Et il y a le côté qui signe vraiment la patte du L, c'est-à-dire que vous avez à la fois de la mode, vous avez de la littérature qui va être très très présente dans le L. Il y a une nouvelle de Colette quand même dans le premier numéro de L. Il y a aussi une anecdote d'ailleurs très très drôle, c'est que Colette rend sa nouvelle au dernier moment à l'arrache comme beaucoup d'écrivains. Et là, Hélène Lazareff découvre une phrase. Pourtant, c'est pas une femme pudibonde, hein, c'est une grande séductrice. Elle découvre une phrase de Colette qui est la suivante. Le héros avait la semence claire. Et là, Hélène Lazareff me dit, ce n'est absolument pas possible de publier une phrase pareille. Alors elle va se battre avec Colette, puisque Colette avait son caractère et avait pas du tout envie qu'on la censure. La nouvelle va paraître sans la fameuse phrase. Donc il y a cette nouvelle, il y a de la mode, il y a du people de l'époque, et il y a déjà tout l'esprit du L. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui à elle, c'est que dans le L, vous avez aussi bien de la beauté que de la mode que des papiers engagés sur les femmes. Et en fait, c'est comme dans un sac à main de femme. Ah, si vous ouvrez le sac à main d'une femme, vous allez trouver un rouge à lèvres, mais vous allez trouver aussi un livre de Houellebecq et vous allez trouver les bulletins scolaires de ses enfants.
Et donc, on doit retrouver tout ça dans le magazine.
Doit représenter tout ça. Et ça, c'est vraiment un esprit, je trouve, qui est toujours le même aujourd'hui. Et puis, il y a la devise d'Hélène Lazareff qui était « du sérieux dans la frivolité et de la légèreté dans le grave ». Et ça aussi, honnêtement, c'est un esprit qui, 70 ans après, perdure.
C'est-à-dire qu'il faut que ça doit être un exercice magnifique et passionnant, et en même temps très difficile, être constamment léger, dans l'écume, etc., mais avoir du fond, pas que de la forme. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence, et à mon avis, la longévité de Elle. C'est que on sait qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas seulement de jolies pages à feuilleter.
Non,
en fait,
le journal Elle, sa préoccupation, c'est justement d'accompagner les femmes. Alors évidemment, le journal Elle est celui de la libération des femmes, mais il faut voir qu'en 1945, on n'est pas du tout encore dans la libération des femmes. On est dans la libération tout court.
Dans une forme d'émancipation.
Dans une forme d'émancipation, mais il faut voir que c'est encore des années qui sont très noires. Il y a une pénurie de tissus. Donc la mode, à ce moment-là, les femmes se fabriquent encore beaucoup leurs robes par elles ou celles qui sont plus aisées par leurs couturières. Il n'y a pas de tissu. Et donc, il y a beaucoup de conseils pratiques dans les premières années du L qui sont comment s'habiller avec presque rien, comment élever ses enfants. Il faut imaginer qu'à l'époque, ce qui fait rêver les femmes, c'est aussi les arts ménagers. Donc il y a beaucoup de conseils pour faire la cuisine. Et puis il y a des conseils déjà très drôles, parce que l'humour, c'est aussi une composante du L. Il y a un article très rigolo sur comment garder son mari, comment soigner son mari. Les papiers qui aujourd'hui sont faits par Alix Giraudelin, très
c'est
tôt,
ça, voilà, ouais.
Ils sont déjà dans le L.
Oui, on n'est pas très loin du test psychologique et tout ça. Il y a déjà ce bouillonnement-là.
Il y a déjà cet esprit, en tous les cas, aussi de prendre les choses avec légèreté
aussi,
et avec dérision et ironie, bien sûr.
Il y a un nom, en dehors d'Hélène Lazareff, évidemment, qui vient tout de suite à l'esprit quand on pense à elle et qu'on pense aux années un peu anciennes, à la fin des années 50, des années 60. C'est Françoise Giroud, bien entendu.
Françoise Giroud, très très importante. Elle a été la rédactrice en chef très vite. C'est un de leurs amis communs, Hervé Mille, qui a présenté les deux femmes. À l'époque, les Lazareff habitent avenue Kléber, et Hélène, qui faisait des somptueux déjeuners, invite Françoise Giroud à déjeuner. Alors, il faut imaginer que les deux femmes sont vraiment le contraire l'une de l'autre.
Ah oui.
Parce que Hélène Lazareff, elle vient d'une famille russe, très riche, et Françoise Giroud la surnommait la missionnaire de la séduction. C'est une femme qui, effectivement, est comme ça, adore la mode, adore tout ce qui brille. Françoise Giroud, elle est beaucoup plus, elle a eu une enfance, une jeunesse compliquée. Elle était juive, la guerre était une période dans laquelle elle et sa mère ont beaucoup souffert. Elle a été script, vous savez que c'est la première script de toute l'histoire du cinéma, la première femme script. Elle a été scénariste, et donc elle arrive avec une idée...
Une femme de la nouvelle génération,
voilà,
quand même.
Elle de la nouvelle génération,
plus moderne.
Beaucoup plus moderne, et avec une idée beaucoup plus moderne de la femme. Et c'est elle qui, la première, va avoir l'idée que ce qu'il faut transmettre aux femmes, c'est que si elles veulent être libres, il faut qu'elles aient une indépendance financière. Et donc le L va beaucoup œuvrer pour que les femmes travaillent. Marcel Segal, qui s'occupait du courrier du cœur, elle était géniale parce qu'à chaque fois qu'on lui disait « Oh là là, je suis triste, mon fiancé m'a quitté, il me trouve moche, etc. » La seule réponse qu'elle avait, c'était « Travaillez !» Et après, il vous trouvera jolie, et après, vous aurez tous les hommes à vos pieds. D'ailleurs, elle avait raison.
C'est toute une époque, hein, ça. On l'a connu ici même à Europe 1, bien entendu. On disait Europe numéro 1 à l'époque. Cette fin des années 60, ce début des années 70, où il y a une véritable révolution du statut, de la place de la femme. La femme, alors là, cette fois, prend le pouvoir. Il ne s'agit plus seulement de voter à quelques élections.
Absolument. Et avant même la révolution féministe, il y a une chose qui est très importante dans les années 50-60, c'est la révolution des mœurs. Et il y a deux femmes qui l'incarnent et qui sont deux icônes de elle, qui sont Françoise Sagan et Brigitte Bardot.
Bien sûr.
Chacune à leur manière. Hélène Lazareff, elle avait du pif, hein, parce que Françoise Sagan...
Il fallait les dénicher.
Hein. Françoise Sagan, elle publie Bonjour Tristesse en 54, et elle part faire une tournée triomphale, vous savez, aux États-Unis. C'est la fameuse tournée où elle va signer Bonjour Tristesse aux États-Unis. Elle dédicace tous ses livres avec With All My Sympathy, ce qui veut dire avec toutes mes condoléances. mais elle ne le savait pas. Elle rentre à Paris, et là, Hélène Lazareff l'invite à déjeuner toujours et lui propose de devenir grand reporter à elle. Et Françoise Sagan va signer des reportages absolument géniaux. Et tout ce qu'elle va incarner de liberté, d'anticonformisme, de Saint-Tropez, de conduire pieds nus dans une voiture, ça va être dans le L. Et même si toutes les lectrices de L vont pas à Saint-Tropez, en tous les cas, elles rêvent toutes d'y aller.
Et Brigitte Bardot alors ?
Brigitte Bardot, première couverture, elle a 15 ans. Alors, elle a été présentée à Hélène Lazareff par une femme très importante à elle, qui s'appelait Jacqueline Duhem. Jacqueline Duhem, elle a 88 ans. Je l'ai rencontrée la semaine dernière, elle est géniale. Jacqueline Duhem, elle était illustratrice et elle a fait des reportages dessinés absolument géniales. Et géniaux même, et c'est elle qui présente par l'intermédiaire de Vadim. Vadim lui dit « J'ai une fiancée, je voudrais la présenter à Hélène ». Il présente Bardot. Comme dit Jacqueline Duhem, il n'y avait rien acheté. Elle est somptueuse, elle fait sa première couverture. Elle est debout, elle a une robe et à ses pieds, il y a une femme un peu plus âgée qu'elle qui est en train de lui réajuster sa robe. Et c'est un numéro sur les enfants. Puisqu'elle était très jeune, elle incarnait vraiment la jeunesse. Après, elle a le record de couverture avec Catherine Deneuve.
Combien,
plus de 40.
Oh là 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 là. C'est incroyable.
Je crois que Deneuve en a plus parce que Deneuve en a 43. Et Deneuve, c'est encore plus dingue parce que Deneuve, la première, elle a 20
parce
ans.
Que la carrière
et
est
la
beaucoup,
dernière,
beaucoup plus
elle
longue,
en a 70.
Mais voilà,
hein.
Ça, on peut pas comparer.
Donc,
bien sûr.
Elle est assez unique.
La
en
carrière
son genre.
De Brigitte Bardot a été atomique, mais beaucoup plus courte, évidemment, incomparablement.
Ouais.
Et c'est amusant quand même qu'il y ait à la fois des icônes pop, des vedettes de cinéma, beaucoup de mannequins, bien entendu, mais aussi, vous le dites, des femmes de lettres comme Françoise Sagan, des intellectuels, en quelque sorte, à la une de elle. Hein.
Comme Françoise Sagan qui a fait beaucoup de couvertures, mais aussi comme Simone de Beauvoir, qui avec le deuxième sexe, elle lance un pavé dans la mare, on n'est pas femme, on le devient. Il y a des très beaux portraits de Simone de Beauvoir. En préparant les 70 ans, moi je me suis plongée dans les archives, il y en a un que j'aime beaucoup, en 54, quand elle décroche le Goncourt, parce que c'est un papier humain. C'est-à-dire que souvent, Simone de Beauvoir, elle a une image très hiératique, très figée, et la force du elle, c'est d'avoir présenté toutes ces femmes de manière humaine. Elle raconte que elle, qui détestait évidemment faire le ménage et faire la cuisine, pendant la guerre, elle faisait des pot-au-feu pour Picasso et pour Sartre. Et elle dit, ils m'ont jamais dit si c'était bon. Je suis pas sûre qu'elle était une grande cuisinière. Mais elle raconte comment elle adore prendre des bains de soleil, faire du ski, faire de la bicyclette.
Elle est assez inattendue finalement.
Exactement. Oui. Et ça aussi, c'est l'image de elle. C'est donner des images aux femmes inattendues de grandes icônes.
Alors Olivia de Lamberterie, dans un instant, va venir aux états généraux de la femme et puis un certain nombre d'autres femmes iconiques.
Un souvenir de Didier Barbelivien, c'était dans les années 80 avec Elle, un titre prédestiné pour l'émission d'aujourd'hui parce que nous fêtons tous ensemble les 70 ans du magazine Elle. Franck Ferrand, vous recevez Olivia de Lamberterie, chef du service des livres, éditorialiste et grand reporter au magazine Elle.
Et qui a pour Elle réalisé un nombre, on pourrait presque dire... Une quantité innombrable d'interviews, Olivier
oui,
de Lamberterie.
Oui,
Elle, c'est 3700 numéros, plus de 50 000 articles en tout. Et encore, je parle de l'édition française. Il faudrait parler de toutes les autres éditions. Il y en a beaucoup.
46 éditions dans le monde. Et ça, c'était un vrai plaisir dans mon parcours à Elle, de fêter l'ouverture de chaque édition, évidemment aux États-Unis, mais aussi au Chili, en Pologne, en Argentine. Et il y a un vrai esprit de corps entre toutes les rédactions.
Alors, je feuillette en même même temps que je vous parle, là, je feuillette ce très bel album qui s'appelle « Il était une fois, elle, de 1945 à nos jours » aux éditions du Chêne, avec énormément d'articles reproduits, de couvertures, etc. C'est bourré de photos, c'est assez spectaculaire. On a l'impression d'une plongée dans ces 70 années où l'on découvre beaucoup d'articles de société, même d'articles politiques d'une certaine manière. Parlez-nous de ces états généraux de la femme. De quoi s'agit-il ?
Oui, le L a toujours eu à cœur de défendre les femmes, leurs droits, leurs aspirations, leurs désirs. Et en plongeant dans les archives, je ne sais plus s'il est dans le livre, mais je suis tombée sur un papier en 1961. C'est le témoignage d'une femme qui dit « J'ai 32 ans, je suis désespérée, j'attends mon sixième enfant ». Donc, évidemment, ces femmes-là, on les écoutait. 1968 arrive. Alors là, je crois qu'Hélène Lazareff est très prise de court. Il faut savoir que jusqu'en 68, les femmes n'ont pas le droit de venir travailler en pantalon à elles.
Ah, quand même, hein.
Imaginez-vous. Elle fait quand même d'ailleurs une couverture sur 68. Et puis la révolution se passe. Et là, les féministes, les associations, le MLF, il y a le sentiment que la révolution de 68 a complètement oublié les femmes. Leurs revendications ont été exprimées, mais rien n'a été fait. Et donc, les femmes sont les grandes oubliées de 1968. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le journal Elle a vraiment l'idée assez, je trouve, géniale pour l'époque, en 1970, d'organiser les états généraux des femmes. C'est à Versailles, c'est Simone Veil qui vient ouvrir la manifestation, c'est Cartier-Bresson qui prend les photos pour le journal, et je peux vous dire qu'elles sont inouïes. Et là, on réunit des femmes politiques, celles qu'il y avait à l'époque, des hommes politiques, pour faire une espèce de cahier de doléances de tout ce qui ne va pas dans la vie des femmes et de tout ce qui peut être amélioré. Ce qui est absolument génial et quasiment historique, c'est que toutes les lois qui vont être votées pour les femmes, aussi bien la loi sur l'avortement que la loi sur l'égalité des salaires, que toutes les lois concernant le travail des femmes, elles sont originaires de ces états généraux-là.
C'est incroyable.
Ce qui est sympathique aussi...
Quand un journal, quand la presse assume une dimension directement politique, là en fait, il faut le dire.
Absolument.
Et même sociale.
Sociale, voilà. Sociale plus que politique, j'ai envie de dire. Et il y a quelques années, pour fêter les 40 ans de ces états généraux, en 2010, on a organisé des nouveaux états généraux à Sciences Po, à l'école des sciences politiques. Et là aussi, on a écouté les femmes et c'était absolument passionnant.
Oui, vous êtes constamment en prise sur la société. Vous parlez de femmes et de femmes politiques. Il n'y a pas beaucoup de femmes politiques à la une de Elle, du reste,
pas
dans l'histoire.
Alors moi, je me souviens, j'étais pas très vieille à l'époque. Quand Edith Cresson a été nommée Premier ministre
1991,
à l'époque,
oui.
C'était Jean-Dominique Bobby qui était le rédacteur en chef. Et j'avais été désignée pour faire le papier sur Edith Cresson et on avait fait une couverture en noir et blanc. C'était assez inouï. Simone Veil a fait la couverture. Ségolène Royal l'a fait quand elle était en campagne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de femmes politiques. Ce qui nous a très très bien réussi dans les 10 dernières années, ce sont les premières dames. Une vente historique du journal a été réalisée avec les confidences de Cécilia Sarkozy lorsqu'elle a quitté son mari Nicolas Sarkozy qui était président de la République et elle a donné en exclusivité à Valérie Toragnan, la directrice de la rédaction d'alors, ses confidences et le journal qui à l'époque peut-être sortait encore le lundi a été pris d'assaut à midi, il n'y avait plus de journaux dans les kiosques. C'était vraiment un grand événement.
Je me rends compte que nous parlons depuis un petit moment de Elle et qu'on n'a quasiment pas parlé de mode, c'est quand même un comble. Ça fait partie intégrante, évidemment, de la mission de Elle que d'être l'emblème de la mode française, quand même, et internationale, d'ailleurs.
Voilà, d'autant que Hélène Lazareff était une grande fan de mode. Elle a été très, 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 très sensible au new look de Christian Dior en 1954. Il y a d'ailleurs un article très drôle de François Giroux au moment du new look de Christian Dior. Vous savez, c'était des jupes très, très serrées à la taille et qui nécessitait une grande quantité de tissu des jupes Corolle. Et François Giroux disait que malheureusement on trouvait pas forcément le tissu pour se faire la jupe. Et puis après elle a été très très amie Hélène Lazareff avec Coco Chanel qui a fait la couverture de Elle. Et quand elle revient en 1957 après une traversée du désert, tout de suite Hélène fait une couverture avec elle. Et pour la mode, c'est un homme qui a compté à Elle, c'est Peter Knapp qui était un très grand photographe,
directeur, oui.
Mais aussi un très très grand directeur artistique de
oui.
elle. Et c'est lui qui a accompagné la naissance du prêt-à-porter, Courrèges, Sonia Riquiel. Il a fait appel à des grands, grands photographes qui ont fait leur début dans le L, que ce soit Jean-Louis Sieff ou Sarah Moon. Et il a fait des trucs qu'on imagine aujourd'hui qui sont absolument banals. Mais à l'époque, c'était fou. Par exemple, c'est le premier qui a fait poser des filles pour des séries mode pieds nus. Et là, à l'époque, je peux vous dire que dans la grande bourgeoisie, on disait qu'est-ce que c'est que ça, ces filles qui n'ont pas leurs chaussures. C'était un directeur artistique très talentueux, très fantaisiste. Et sous sa houlette, il y a eu des couvertures qu'on peut découvrir dans le livre qui sont d'une fantaisie absolument géniale.
Et qui donne à elle une nouvelle image, d'une certaine manière. Une image qui ne ressemble à aucune autre. On sait, quand on feuillette elle, qu'on est dans ce journal, en fait. Non ?
Exactement. Grâce à la mode et grâce à ses variations de ton. Jamel Debbouze, il a une formule qui me plaît beaucoup, qui m'amuse. Il dit « Elle, c'est le seul magazine qui commence par un édito féministe et qui finit par des recettes de cuisine. » Et en fait, il a raison. Fiches cuisine qui ont été inventées dans le L par une personnalité absolument géniale qui s'appelait Mapi de Toulouse-Lautrec. La comtesse de Toulouse-Lautrec, c'était la petite sœur de Louise de Villemorin. Elle a inventé les fiches cuisine et elle a inventé le gigot de 7 heures. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'elle disait quand je reviens après avoir accouché, il n'y a rien à manger chez moi. Alors j'ai trouvé une solution, je mets un gigot à cuire, je vais accoucher et 7 heures plus tard, je reviens et j'ai mon gigot qui m'attend. C'était une personnalité inouïe, elle avait des chapeaux géants. Et elle a inventé ces fiches cuisine qu'on pouvait découper, qui sont une des marques fortes du journal Elle toujours aujourd'hui.
On sait que la française en général et la parisienne en particulier fascinent la planète. Ce que vous avez réussi, c'est à transcender cet esprit-là pour en faire un journal, en fait. C'est ça. Hein.
C'est vrai. Et
d'ailleurs... Avec le côté un peu revendicatif, très actuel, mais en même temps, avec aussi la cuisine, la mode, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de frivolité et beaucoup de gravité en même temps. C'est ça qui est extraordinaire.
Et c'est d'ailleurs ça qui est absolument génial quand vous travaillez à Elle. Bon, je n'ai pas participé quand même à sa création en 1945, mais ça fait plus de 20 ans que j'y travaille. Et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez faire un grand nombre d'articles très variés. Moi, j'ai écrit aussi bien des papiers psycho, comment trouver un mari, tromper son mari, retrouver un autre mari. Mais j'ai interviewé Jean d'Ormesson, mais j'ai interviewé Françoise Sagan, mais j'ai interviewé Simone Veil, mais j'ai interviewé Vanessa Paradis. Ça vous permet de rencontrer vraiment une variété de personnalités absolument géniale.
C'est une véritable déclaration d'amour que vous venez de faire depuis une demi-heure, Olivia de Lamberterie. Je suis ravi que vous l'ayez faite dans notre émission. Ce journal, Elle, a donc, je dis journal comme vous maintenant, parce que j'ai compris que c'est comme ça qu'on dit, hein, quand on fait partie de la rédaction, quand on est in, on parle du journal.
Oui.
Alors, Elle a 70 ans, il y a ce très bel album qui est publié par les éditions du Chêne, qui s'appelle « Il était une fois, elle, de 1945 à nos jours, mode, icône, société, 70 ans d'archives du magazine Elle, dit le bandeau ». Oh, on aurait pu dire bien d'autres choses, mais vous nous les avez laissé entendre cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci Franck, c'était très agréable. Et un numéro spécial le 19 novembre, en kiosque, pour fêter cet anniversaire.
Ah, et alors on sait ce qu'il y aura dedans ?
C'est une surprise totale, d'accord. Mais c'est exceptionnel.
Je me doutais un peu de votre réponse.
Dans un instant, Franck vous répondra à la question de Juliette qui veut en savoir plus sur les origines de l'expression « le dernier carat ».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Aujourd'hui, c'est une question que nous avons reçue sur le site europe1.fr, une question signée Juliette, qui vous demande, Franck, les origines de l'expression « dernier carat ».
Alors, il faut d'abord distinguer le carat des bijoutiers du carat des joailliers. Le carat des bijoutiers, ça correspond à 1/24 de la masse totale d'un alliage. C'est-à-dire que si vous avez un or à 24 carats, ben ça veut dire que les 24 parties sont composées d'or. Donc, c'est un or parfaitement pur. Ce n'est qu'ensuite que ce carat est devenu une unité de masse en joaillerie. On parle du carat des joailliers. On a un carat fait 0,20 g, donc il faut 5 carats pour faire 1 gramme. Ce qu'on appelle le dernier carat, c'est sous-entendu le 24e, la dernière limite. C'est ce qu'il faut ajouter pour aller jusqu'à la totalité ou jusqu'à la perfection. Vous savez d'où ça vient ce mot carat ? Ça vient du grec kératione. C'était la graine de caroubier. Pourquoi ? Mais parce qu'autrefois, les orfèvres pesaient l'or et les pierres précieuses avec des graines de caroubier.